croisée.
Chers auditeurs de Forum Opéra et Cobuzz, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Croisée. C'est Christina Pluart, la grande prêtresse du Seicento, à la rencontre de laquelle nous nous rendons aujourd'hui à l'occasion de la sortie du nouveau disque de l'Arpeggiata, une version attendue, espérée même, des Vêpres de la Vierge de Monteverdi, une forme de retour donc à la musique exclusivement savante, après avoir jeté tant de passerelles, parfois évidentes, souvent fascinantes, toujours troublantes, avec ses racines populaires, plongées au cœur et aux confins des traditions de l'Europe du Sud, et même par-delà les mers, les océans. Mais comment, depuis Graz et les rives de la Mure, Christina Pluart a-t-elle abordé au rivage de l'Italie du Sud? Première étape, le passage de la guitare classique aux luths et tout le répertoire de la musique ancienne qui s'ouvre à vous. De l'Europe centrale, vous gagnez le Nord, La Haye avant Bâle, comme un passage obligé. Vous étudiez avec les plus grands, Hopkinson, Smith, Paul Odet. Rapidement, et conséquence logique, vous jouez avec les ensembles les plus réputés, au premier rang desquels, installé en France depuis maintenant près de 20 ans, La Fenice de Jean Tuberi. Soliste, mais aussi surtout continuiste, aux côtés de Garrido, Bolton, Jacobs, Minkowski. Découverte du chant et, plus importante encore peut-être, découverte du théâtre. Théâtre de l'âme et du corps, théâtre du contraste et de la variété, théâtre rhétorique, théâtre baroque. En 2000, vous franchissez le pas et créez votre propre ensemble, l'Arpeggiata. Dans la foulée, dès juin, vous enregistrez chez Alpha un disque manifeste, La Villanelle, anthologie de pièces vocales de Giovanni Girolamo Capsberger. Premier disque, premier choc, car on y entend déjà cet alliage hypnotique de cordes pincées qui fait votre signature, et puis déjà aussi ce désir de décloisonner la musique baroque, de sortir du strict cadre musicologique, ou plutôt de l'élargir et de confronter la musique dite savante à ses racines populaires. Légende du chant traditionnel italien, Pino De Vittorio y est votre premier guide. Après Capsberger, autre grande figure du Seicento romain, Stefano Landi, cette fois avec l'inclassable Marco Bisli, et avec des musiciens qui pour la plupart font encore partie de votre ensemble. Puis c'est la Tarantella, all'improvviso, où vous rejoint Lucilla Galeazzi, sur des chemins de traverse qui mènent directement à l'improvisation, justement, un ensemble d'instruments d'époque comme un groupe de jazz. On a passé en votre compagnie des soirées euphorisantes à la salle Gavou, prêt à, toutes les surprises, et même Philippe Jaroussky déhanchant son Monteverdi. Vous vous attaquez ensuite, enfin, à une œuvre de grande envergure, Rappresentazione di anima et di corpo d'Emilio dei Cavalieri, premier oratorio dans tous les livres d'histoire de la musique, premier opéra, sacré certes, mais d'abord théâtral, spectacle de la foi. Une luxuriance inouïe, sans jamais négliger le sens. Chez Naïve, pour un disque, vous partez à la conquête du Nouveau Monde en compagnie des King Singers, mais l'heure de Monteverdi est venue avec Teatro d'Amore chez Virgin Classics, avec Philippe Jaroussky toujours et Nuria Rial, votre couple vocal idéal. Quelques détours par une Via Crucis où se croisent Seicento, Naples et Corse avec l'ensemble polyphonique Barbara Fortuna et revoici le divin Claudio. Après son théâtre d'amour, son théâtre de la foi, les Vêpres de la Vierge, monument que vous restituez dans toute sa clarté virtuose avec un cœur de soliste, dans un esprit plus madrigalesque que liturgique. Christina Pluart, qu'est-ce qui vous fascine tant dans les voix et plus particulièrement chez les voix latines ?
Oui, en effet, je suis très fascinée par les voix en soi, donc tout type de voix. Bien sûr, par la musique vocale du XVIIe siècle, italienne surtout. Mais il y a tellement de possibilités d'utiliser une voix humaine quand on écoute... tout type de musique, soit voilà, la variété française ou bien musique traditionnelle italienne ou musique traditionnelle sud-américaine ou même dans d'autres cultures, musique arabe, musique africaine, musique chinoise. Vous comparez les sons des chanteurs qui sont considérés comme des belles voix dans chaque culture et vous ne retrouvez jamais une esthétique qui ressemble à l'autre, non? Par exemple, juste un extrême musique de Chine, de la Chine, non? Des voix très très tendues comme ça, non? Ou bien on parlait des Corses tout à l'heure. Très souvent, une caractéristique dans la musique traditionnelle vocale, c'était chanter avec la voix des poitrines les plus aigus possibles. Donc, le grand art, c'était monter sans passer en voix des têtes jusqu'à l'extrémité de la voix des poitrines. Ça veut dire que ça date des débuts des êtres humains, des voix passer sans amplification, bien sûr, dans des grandes distances à l'extérieur, non? Donc, de développer une force, une puissance dans la voix, non? Qui n'a rien à voir avec l'esthétique du bel canto, bien sûr, hein, parce que là, on cherche toujours un mélange donc, entre voix des têtes, voix des poitrines, non? Et juste pour vous dire que c'est tellement riche l'utilisation de la voix ou les chants, voilà, qu'on peut, on peut que être fasciné de ça, parce que après, qu'est-ce que c'est l'effet magique d'une belle voix, non? Si vous commencez à analyser, vous vous perdez tout de suite, non? Par exemple, pourquoi Philippe Jaroussky touche autant? Pourquoi il fait autant pleurer, non? Bien sûr, c'est beau, mais c'est quoi pour, hein? À côté de ça, vous pouvez prendre une autre voix, une voix traditionnelle, ou une chanteuse de jazz, ou je ne sais pas quoi, et vous pourriez avoir les mêmes effets émotionnels. Et c'est ça qui compte quand vous écoutez un chanteur. Comment la voix, les sons, peut faire passer donc l'émotion. Et c'est donc très complexe. Et effectivement, pourquoi je suis tellement curieuse sur d'autres types de voix, c'est aussi parce que, évidemment, on n'a pas des exemples sonores du XVIIe siècle. On a des descriptions des compositeurs ou des contemporains qui parlent des belles voix et qui parlent un tout petit peu de la technique des voix qui sont utilisées aussi. Donc, très très peu, hein, très, très flou, c'est très flou. Ils disent, voilà, un bon chanteur doit avoir une belle voix très claire. Il doit pouvoir parler les textes en chantant. Il doit avoir une très forte présence sur la scène et faire des gestes, non, être un acteur aussi. Mais la définition d'une belle voix, alors, c'est quoi? Non, et c'est pour ça aujourd'hui, en faisant de la musique du XVIIe siècle, on voit qu'il y a certains paramètres dans la composition qui sont très demandeurs pour des chanteurs. Donc la virtuosité, non? Une technique très spéciale qui s'appelle la gorgia, non? Qui donne une virtuosité, donc de faire des diminutions, de chanter très rapidement, non? Bon, ça c'est les choses qu'on voit dans la composition qui nous indiquent que c'est les chanteurs qui étaient très virtuoses. Après, vous constatez aussi que c'était des tessitures très extrêmes parfois, non? Donc évidemment, il y a tous les problèmes des castrats, que, donc de toute façon, ils avaient des tessitures beaucoup plus larges que des chanteurs féminins ou des ténors ou des barytons, etc. Mais on est sûr que c'était des chanteurs à la fois très virtuoses, des artistes très complexes qui savaient parfois aussi composer, etc. Qui étaient des formations aussi des danseurs ou des instrumentistes, etc. Non? Donc tout ça, juste pour vous expliquer que sans cesse, je cherche dans ce domaine parce que je trouve ça extrêmement fascinant de comprendre quels sons et quelles émotions passaient à l'époque et quel type de voix ils trouvaient beau. Même sans vous éloigner de la musique classique, même si vous allez dans les enregistrements historiques, hein, donc c'est-à-dire on a peut-être 120 ans des enregistrements aujourd'hui qu'on puisse écouter, non? Et vous comparez donc aujourd'hui avec les années 80, avec les années 50, avec les années 30 ou plus tôt. L'esthétique d'une belle voix change toutes les 10 ans, hein? On peut dire ça parce que les types de vibrato, les types de voix qu'on trouvait beaux, ou même la technique dans les bel canto, ça change tous les temps, non? Et donc pour dire aujourd'hui une voix du Seicento était comme ça, c'est complètement impossible en fait. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup chercher aussi dans d'autres styles de musique, dans d'autres types de techniques hors du bel canto, du lyrique, de la formation lyrique. Voilà, pour comprendre un petit peu voilà, quelles couleurs sont possibles pour exécuter cette musique.
Et justement, qu'est-ce que ça apporte à votre interprétation de travailler avec des voix, des chanteurs, comme Lucilla Galeazzi par exemple, qui perpétuent une tradition orale et non pas écrite, comme celle de la musique classique, enfin, qu'on appelle classique?
Alors, le travail avec Lucilla Galeazzi, pour nous, c'était vraiment super, très, très, très inspirant. Pour deux raisons, parce que Lucilla a, je dirais, un peu comme Philippe, elle est une qualité d'un chanteur. Donc, elle ouvre la bouche et avec la première note, elle est mue. Hein, donc, c'est une qualité des sons qui n'est pas explicable et qui ne dépend pas du style et de la formation vocale. Hein. C'est une qualité de couleur qui passe l'émotion. Et en plus, il y a une autre qualité fantastique que pour moi, j'appelle ça même baroque, si vous voulez, parce que c'est une présence scénique qu'elle a, un pouvoir de communication, des gestes qu'elle fait automatiquement, hein, qui sont très très fortes. Donc elle a quelque chose qu'on cherche à reconstituer dans les baroques aussi, non, avec la gestique, etc. Mais qui vient rarement si naturel chez des chanteurs de formation classique que j'ai cette chanteuse qui est formidable, non. Bien sûr, c'est un talent, c'est une expérience, c'est une volonté de communiquer avec le public au maximum qui est très fascinant pour nous. Et je dois dire que tous les chanteurs, disons baroques ou classiques, qui ont travaillé avec nous à côté de Lucilla Galeazzi, étaient toujours extrêmement fascinés par ça, de Lucilla. Même Philippe Jarousse qui nous dit toujours qu'il s'est beaucoup inspiré à chanter à côté de Lucilla, de son énergie débordante et sa possibilité de communiquer tellement avec le public, non? Et donc lui, bien sûr, il a toutes ces qualités-là, mais il dit toujours voilà, il y a Lucilla qui a déclenché quelque chose encore chez lui.
Alors justement, la pièce que nous allons écouter maintenant, ils l'ont souvent chantée en duo, c'est la Ninna Nanna Sopra la Romanesca, que Lucilla Galeazzi chante ici seule. C'est un extrait du disque All'improvviso paru chez Alpha, et c'est Gianluigi Trovesi à la clarinette.
Mamma,
Nous venons d'entendre la Ninna Nanna Soprala Romanesca. C'est dans une mélodie improvisée, adaptée par Lucilla Galeazzi et arrangée par Christina Pluart, dans le disque All'improvviso, paru chez Alpha. Comment est-ce que vous choisissez vos chanteurs et vos instrumentistes? Il y a un noyau très fort qui n'a pratiquement pas bougé. Comment est-ce que vous avez constitué ce noyau de musiciens?
Alors, effectivement, je suis quelqu'un qui est très loyal et très fidèle, et j'aime beaucoup travailler avec des gens à très long terme, parce que je suis convaincue que c'est que par un travail en profondeur qui dure vraiment pendant très longtemps, que vous pouvez vraiment arriver à construire un langage et des réactions entre les chanteurs et les instrumentistes qui deviennent vraiment très naturelles, non, une espèce d'écoute qui ne se construise pas en une répétition. C'est vraiment un travail de longue haleine. Et en fait, effectivement, la plupart de musiciens d'arpeggiata sont des gens que je connais depuis très très longtemps. Par exemple, notre cornettiste vraiment incroyable, Doron Chervin, a fait des études avec moi. Et donc aussi notre luthiste, Eero Palviainen, on a fait les études ensemble. Veronica, j'ai connu à la même époque, parce qu'on visitait des stages en Italie, des stages d'été qu'on a fait, etc. Donc c'est aussi des amitiés de très long terme, non? Et voilà, et c'est des gens, des musiciens formidables. Et aujourd'hui, on a vraiment les plaisirs et les privilèges de travailler ensemble et creuser ensemble un certain style de faire la musique qui devient un peu notre manière propre de faire des choses, non? Bien sûr, avec beaucoup d'accent sur l'improvisation. Donc, un musicien comme Doron m'exprime souvent qu'il a le plaisir aussi d'avoir la place pour lui-même développer son propre talent d'improviser, parce qu'il a toujours pratiqué ça, il a toujours eu les talents fous d'improviser, non? En plus, il joue comme un dieu, bien sûr, mais dans d'autres ensembles, il a pas vraiment la possibilité de pratiquer ça, non? Et donc, j'aime beaucoup aussi, une fois que je choisis quelqu'un, de regarder qu'est-ce qu'il a, lui, comme talent, qu'est-ce qu'on peut lui donner encore comme place pour se développer mieux. Et donc, d'essayer de sortir les qualités des artistes, voilà, et des talents des artistes.
Voilà. Et justement, la rencontre avec Philippe Jaroussky, j'imagine que vous avez aussi dû vous apprivoiser, non? Que ça n'a pas forcément été évident dès le début, peut-être.
Alors Philippe, je l'ai connu quand il était très jeune. On a fait la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était avec Jean-Claude Malgoire dans la trilogie de Monteverdi. Et Philippe, il avait genre 19 ou 20 ans, quelque chose comme ça. Et donc on s'est bien marré déjà dans une production de chez quelqu'un d'autre. Mais je l'ai invité pour la première fois de chanter avec nous en 2003. Donc en fait, c'était 4 ans après, et entre-temps, il a vraiment déjà mené sa carrière de soliste. Et en fait, le tout premier concert qu'on a fait ensemble, c'était notamment à la salle Gaveau, et c'était le programme à l'improviso qu'on a donné à la salle Gaveau. Et donc, c'était le tout premier concert avec Philippe. Et c'est un très beau souvenir parce que on s'est vu avant, donc j'aime bien aussi quand j'ai invité quelqu'un pour la première fois, qu'on réfléchisse ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire, on lit la musique ensemble, on étudie juste nous deux à ma maison, voilà, on réfléchit, on discute, on essaie des choses, non? Et après, il est venu pour la première fois aux répétitions avec nous, Et j'avais choisi notamment le morceau Oimeki Okado pour intégrer dans des programmes à l'improviste qu'on n'a pas enregistré à cette époque-là. C'était juste pour la version des concerts qu'on attendait. Et donc, j'avais vu une petite possibilité d'aller un peu ailleurs avec les styles, notamment. Donc, j'ai choisi ça pour la première fois pour ces programmes à l'improviso. Et donc, on discutait beaucoup pendant les répétitions avec Philippe. On essayait de faire ça en swing, on essayait de faire des diminutions baroques, etc. Et Philippe disait, oui, c'est bien, on peut le faire comme ça, mais bon, je préfère quand même dans les concerts de faire... une version sage, baroque, parce que bon, je trouve ça va un peu loin, etc. Donc on s'est beaucoup posé la question quand même. Donc, vient le moment du concert, après beaucoup de répétitions et des réflexions comme ça, et donc on fait une version dans les concerts très, très sage. Non je dis à Philippe, ok, on fait une version très sage, très bien, ça va. Donc, on a fait une belle version baroque. Non et après, c'était la fin du concert, et puis... Lucilla a commencé à chauffer vraiment la salle avec ses bis. Donc elle fait deux, trois bis. Et j'appelle Philippe pour faire un bis en solo, non ? Et là, il disait, oulala, ça va plus, je ne peux pas faire quelque chose de sage là, après Lucilla Galeazzi. Donc en fait, il s'est mis lui-même à se surprendre lui-même dans la première fois qu'il a fait Oimeokado en geste devant le public, oui. Et c'était un moment vraiment historique parce que nous, on ne croyait pas nos oreilles quand il nous a sorti ça. Il commençait à danser, il a fait tout un truc et c'était vraiment formidable. Et voilà, et c'était comme ça que cette version qu'on a enregistrée après pour le disque Théâtre d'Amour et chez Virgin était née.
Version que d'ailleurs nous allons écouter.
Un servo il tuo, un vezzoso mirar, soli onori negaro.
Nous venons d'entendre Oime Kyokado dans une version très jazz, interprétée par l'arpeggiata et Philippe Jarouski. C'est un extrait des Arioso e Vaghezze de Monteverdi, paru à Venise en 1624. Alors justement, cette version pose la question de la liberté de l'interprète, jusqu'où peut-on aller avec l'improvisation dans ces musiques du XVIIe, dont on sait que pour la plupart la notation est un peu lacunaire. Souvent il n'y a qu'une ligne de basse, une ligne de chant, donc il faut un peu remplir les trous. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller ?
C'est bien sûr une bonne question. Et on dit toujours, Philippe, comme moi et les autres musiciens, on ne croit pas que Monteverdi doit être échoué comme ça, c'est sûr. Mais en fait, on a fait ça, bon, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'était monté dans un autre contexte, hein, dans un programme qui est très libre, qui s'appelle « À l'improviso », où on a inclus les improvisations d'un musicien de jazz. Hein, on les a mis ensemble avec nos propres improvisations. Donc j'ai cherché justement pour ces programmes une pièce qui est écrite sur une basse qui peut être transformée. Non, mais en fait, en même temps, je voudrais, en décidant de les mettre sur les disques Théâtre d'Amour, montrer aussi au public que cette musique du XVIIe siècle est tellement moderne, tellement radicale, non, qu'on change une petite chose qui est juste les percussions qui sont en décalage par rapport du tactus. Enfin, il se met en swing, il se met en contretemps, non ? Et vous avez quelque chose qui est tout à fait d'une autre époque, mm-hmm. non ? Mais c'est sur la même passe, non ?
Ouais.
Et c'est vraiment étonnant parce qu'on a, disons, pratiquement rien changé. Vraiment, hein ? Si vous analysez vraiment les notes qu'on a rajoutées, c'est très très peu, c'est vraiment très peu. Non ? Et donc, en fait, mon souhait, c'était vraiment de montrer au public... Mais regardez, ce génie, Monteverdi, il était incroyable. Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme musique ? C'est vraiment incroyable. On n'a pas trouvé mieux. Pas beaucoup mieux, quoi, je trouve. Donc, c'est pour ça que j'adore cette musique, parce que, voilà, ça nous parle au cœur, encore aujourd'hui, je trouve.
Et il y a un mouvement ces dernières années auquel vous avez inévitablement participé. C'est, je dirais, la prise de pouvoir des théorbistes, mais disons que le cœur du continuo...
Attention, je vais devenir président. Hein.
le cœur du continuo est passé depuis quelques années du clavecin aux cordes pincées. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette translation comme ça
Je ne sais pas si c'est une prise de pouvoir organisée par
la guilde des...
Mais bon. Je pense c'est assez complexe comme thème parce que, tout premièrement, je trouve que les théorbes, donc qui est un instrument... qui n'a pas de notes aiguës. C'est un instrument comme, disons, ça ressemble plus à la basse électrique, si vous voulez, non, dans la fonction, dans l'ensemble. Donc ça donne le rythme et ça donne vraiment les notes graves. Donc ça improvise pas comme, même pas comme une guitare électrique, si vous voulez, non, ou un luth. Donc ça donne une base, ça donne une base rythmique aussi, non? Et pour moi, ça se prête très bien pour donner une certaine pêche à un son dans l'ensemble. Vous voyez, comme un très bon bassiste ou un contrebassiste jazz ou de basse électrique, le drive vient de la basse, ensemble avec les percus. Non? Et pour moi, dans le travail avec arpégiateur, j'utilise cette fonction-là. Enfin, je joue aussi l'harpe, mais si je joue l'harpe, j'ai une fonction complètement différente que si je joue les théorbes, parce que les harpes, ça se prête très bien pour justement faire les improvisations mélodiques. Non? Mais les théorbes donnent un drive et un rythme, non? Et je pense que c'est un peu ça qu'on entend quand on joue, parce que c'est très... Voilà, ça a un swing en soi. Et voilà, donc ça c'est une chose. Une autre chose, c'est que la musique du XVIIe siècle, et notamment on a fait preuve maintenant avec notre projet de Vêpres, ne nécessite pas du tout d'un chef qui se met devant les autres musiciens et dirige avec les mains, non? Même si c'est pratiqué aujourd'hui beaucoup, hein, donc si vous allez à l'opéra, il y a toujours quelqu'un qui dirige les récitatifs aujourd'hui. Mais dans la musique, très peu de gens qui sont sur un plateau de la musique du XVIIe siècle, c'est tout à fait possible et beaucoup mieux si vous travaillez avec les musiciens comme une équipe. Donc, pas avec une personne qui dit « c'est moi qui ai raison », mais chacun prend l'initiative et s'engage à trouver les résultats ensemble. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ça fonctionne très bien si vous jouez donc, les théorbes avec les autres. Non? Donc ça donne une autre énergie, ça laisse la place solistes, ça laisse la place aux chanteurs, ça laisse la place aux autres continuistes. Et en même temps, il y a du drive, il y a quelqu'un qui dirige quand même, non? Donc voilà, je ne sais pas si ça explique votre question de prise de pouvoir, mais je trouve que ça fonctionne quand même. Et c'est pour ça que... Bon, et d'autre part, avec les théorbes, donc avec un instrument de corde pincée, vous avez plus de dynamique que les clavecins. Les clavecins, et bien sûr un instrument formidable aussi pour diriger, mais vous avez moins la possibilité de aussi diriger la dynamique de votre ensemble. Hein?
Pour sentir ce swing et cette différence entre le mouvement de la main et le mouvement de l'âme, on va écouter la section centrale du Lamento della Ninfa, qui est extraite du disque Teatro d'Amore, qui est interprétée ici par Nouria Arial, Jan van Elsacker, Nicolas Harten et Cyril Ovidi.
Thank you.
dès le Lamento della Ninfa dans l'interprétation de l'arpeggiata dans un disque Virgin Classics, Teatro d'Amore. Théâtre d'amour, mais aussi théâtre sacré, donc justement avec ces vêpres que vous avez voulu, non pas liturgique, mais plus madrigalesque, comme je le disais tout à l'heure, avec un chœur de soliste. Pourquoi cette option, justement, par rapport à la grande tradition chorale? Pourquoi avoir voulu venir avec des...
Alors, bon, tout premièrement, parce que il y avait déjà beaucoup de recherches faites sur ça, si c'était un chœur ou si c'était des solistes qui exécutaient à l'époque de Monteverdi cette œuvre-là. Et quand vous regardez les partitions de Monteverdi, il n'y a bien sûr aucune évidence que... il y a des passages chantés par un ensemble vocal de grande formation et des solistes, non? C'est en forme, donc l'édition originale de facsimilé, chaque chanteur a son propre livre, non? Donc il suit cette édition-là comme ça, et donc il chante à la fois les solos et il chante les ensembles vocaux, non? Qui sont des 6 à 10 voix, non? Donc il n'y a pas vraiment une évidence que c'était un chœur de grande formation qui chantait ça. Aussi, surtout, quand vous regardez la virtuosité de la composition de Monteverdi. Donc ça demande vraiment des solistes, des chanteurs très, très bons, de très bon niveau, parce que c'est très virtuose. Et donc voilà, c'est sûr que c'était des très bons solistes qui chantaient cette musique-là. Et on a eu la chance, justement, d'avoir dans notre projet un cast des solistes vraiment exceptionnels qui chantaient ensemble, et qui chantaient à la fois les solos et à la fois les ensembles vocaux. Et beaucoup de chanteurs m'ont dit qu'il y avait un grand plaisir pour eux de retrouver la possibilité, justement, de chanter en ensemble vocal. Mmh. Non, des gens comme João Fernandes, qui est un grand soliste, qui chante... qui fait des succès partout, en opéra, en solo, ou bien Nuria, ou bien Emiliano, enfin tous ces gens-là incroyables avaient un plaisir de chanter ensemble. Premièrement parce qu'ils s'étaient entourés de chanteurs extraordinaires, et deuxièmement parce que c'est une telle émotion de chanter cette musique de Monteverdi, une telle complexité, avec des sons que vous entendez autour de vous qui sont incroyables. Donc, je pense qu'ils ont eu beaucoup de plaisir. Et comme je disais tout à l'heure, je l'ai vraiment beaucoup responsabilisé aussi de chanter en ensemble vocal, donc sans chef quasiment, malgré le fait que je suis toujours présent, je dirige d'une manière différente que d'autres chefs le font.
Et justement, Cette version solistique, ça permet aussi des tempi plus rapides, par exemple, que les versions dites de référence. Comment on arrive quand même à garder une clarté du texte aussi et une compréhension du texte avec des tempi rapides comme ça? Quel est le travail pour arriver à
Alors,
ça?
Alors, vous savez, pour nous, c'était pas des tempi... rapide, c'était des tempi très, très naturels. Mmh. Hein. Donc on s'est plongé à interpréter cette œuvre et c'est les tempi qui sont venus très naturellement à nous. Donc surtout parce que on a essayé de. Très souvent, Monteverdi utilise un cantus firmus. Hein. Et quand vous prenez un certain tempo pour les cantus firmus, qui reste en soi encore chantable. Mm-hmm. Hein, parce que si vous ralentissez trop les tempos du cantus firmus, vous avez des très longues notes. Hein. À côté des longues notes, il y a des notes très rapides des autres chanteurs. Mm-hmm. Non? Et des plus vite vous faites les cantus firmus, des plus naturel vous pouvez faire les cantus firmus, aussi, notamment dans les mm-hmm. magnificat. Non? Mais ça veut dire que des tempi très naturels pour les cantus firmus implique une très grande virtuosité pour les autres chanteurs autour et aussi pour les instrumentistes, non? Mais très franchement, on ne s'est pas trop posé les questions sur ces tempi parce que on était convaincus que c'est les tempi très naturels. Et c'est aussi encore plus des plaisirs de chanter cette musique si vous avez vraiment des feux d'artifice et des passages qui demandent vraiment une virtuosité. Donc c'était très excitant aussi de jouer et chanter ça comme ça.
Alors, on écoute le plus grand feu d'artifice de cette pièce, qui est le Nisi Dominus à 10 voix, dans la version évidemment de l'arpeggiata parue chez Virgin Classics. Des Vêpres de Monteverdi dans la version de l'arpeggiata dirigée par Christina Pluart, le Nisi Dominus à 10 voix. Comment est-ce qu'on résout la variété de l'œuvre? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des passages qui tiennent de la polyphonie, d'autres qui sont très, très audacieux et qui étaient très modernes pour l'époque, ce sont les concerti. Comment est-ce qu'on résout justement cette dichotomie entre quelque chose qui appartient au passé et quelque chose qui appartient au présent et même à l'avenir ?
Alors moi, je dirais que la grande qualité de Vêpres, c'est justement la variété de techniques de composition que Monteverdi a utilisées. C'est ça qui donne à l'œuvre donc quelque chose qui vous laisse son souffle à la fin, parce que c'est tellement fort. Et j'aime beaucoup comparer voilà, cette force qu'on retrouve dans certaines pièces, en fait, aussi au changement des styles de composition, à la peinture de l'époque. Quand vous allez dans une église, parfois vous êtes frappé par un tableau qui est tellement expressif et qui raconte une histoire parfois très violente de la Bible, non? Vous voyez, je ne sais pas, Judith couper la tête de Holoferne, et puis c'est une violence incroyable, non? Mais c'est voulu, parce que c'est voulu de raconter cette histoire à la première vue, avec une émotion qui passe tout de suite, non? Et certaines pièces dans les Vêpres, pour moi, sont un peu comme ça. Par exemple, vous prenez les Dixit Dominus, non? Qui est un contrepoint très élaboré, en alternance avec une technique de composition assez archaïque, qui est les falsi portone, non? Et la peinture du texte, non? Donc, les textes en soi, qui est très violent, non? Donne quelque chose d'une force incroyable. Voilà. Après, juste après, vous passez au Nigasum. Non? Les Nigasum, les textes, ça vient de Cantique des Cantiques. C'est le texte le plus érotique que vous trouvez dans les textes sacrés. Et vous avez dans les Nigasum, c'est un motet à une voix et les passages continuent. Donc, tout à fait autre chose. En soi, une technique de composition qui est très, très moderne. Mais il utilise quelque chose remarquable dans l'écriture de Nigrasum, qui est les rubato écrits. Voyez, donc on a écouté tout à l'heure donc les lamentos de la nympha où le rubato n'est pas écrit, hein, où les notes sont mises au début du temps. Dans Nigrasum, il écrit toujours toute la pièce des choses off-beat. Hein. Donc si il suffit de décaler un micromillimètre encore de sa signature, vous êtes dans un autre style, encore une fois. C'est aussi là, c'est quelque chose d'incroyable, vraiment incroyable, parce que c'est rubato, donc c'est off-beat constant qu'il écrit, renforce bien sûr la sensibilité du texte, non? Donc voilà, c'est un plaisir de passer d'un style à l'autre et d'un texte à l'autre, parce que c'est d'une richesse étonnante à chaque fois.
Et ça imprime aussi un caractère finalement très théâtral à la pièce.
Alors, moi, je suis effectivement fascinée par la théâtralité de Belpré, exactement, oui, c'est ça. On a essayé de travailler un peu sur ça aussi, bien sûr. Et je retrouve donc dans les Vêpres beaucoup des styles de composition qu'il a utilisés, notamment dans l'Orfeo, non? Beaucoup. Donc, l'utilisation du écho, par exemple, dans les Adulcellum, qui est dans le cinquième acte aussi de l'Orfeo, non? Quand l'Orfeo est désespéré, il parle tout seul, voilà. Et puis il y a une voix qui lui répond. Et la technique, Seicento, c'est que il finit une phrase, non? Et l'écho lui répond toujours avec la toute dernière syllabe seulement, et ça donne un autre sens, non? Donc ça, c'est une technique. Après, vous trouvez dans les Magnificat la même virtuosité des instruments comme dans les Possente Spirito, non? Les cornets, les violons. Dans les Possente Spirito, vous avez aussi l'harpe qui doit jouer des choses vraiment jouables et très, très, très virtuoses, non? Et vous trouvez exactement les mêmes types d'écriture pour les instruments d'une grande virtuosité dans les Magnificat, non? Bon, bref, donc j'aime beaucoup comparer ces deux œuvres, parce que je trouve que ce qu'on a dit tout à l'heure sur la force de la peinture, que l'on retrouve dans certaines forces d'expression des textes dans les Vêpres, une théâtralité, comme parfois vous rentrez dans une église et il y a une certaine théâtralité aussi dans les tableaux que vous voyez, dans les sculptures, dans les mélanges et tout, l'espace que vous avez, non ? Et notamment vous parlez tout à l'heure de Cavalieri et son premier œuvre, La représentation des animaux et corps, pour nous. Aussi notre dernier disque qu'on a fait sur Via Crucis, non, où on voit, où on a travaillé encore sur le rapprochement des représentations sacrées, non, et l'évolution de l'opéra. Donc ça a fait un chemin ensemble, si vous voulez.
Et justement, on s'étonne de... Enfin, vous avez dirigé en concert, je crois, Il Palazzo Incantato de Rossi, mais on s'étonne de ne pas vous voir faire plus d'opéra.
Pourquoi? Ah, ça va venir. Ça va venir. Non, on va faire... cet été, en juin, on va faire à Potsdam un opéra qui s'appelle Il Paride, de Bontempi. Donc... c'est, je pense, une première depuis la création en 1662. Et juste après, on va faire une très belle production aussi qui prend justement les Palazzo Incantati de Rossi. Et on les met ensemble, et on fait juste un extrait du Palazzo, et on les met ensemble avec le Compatimento de Monteverdi. Et j'ai invité des joueurs de marionnettes, qui sont des joueurs de Palerme, un maître qui s'appelle Mimmo Cuticchio, qui était nommé patrimoine de l'UNESCO, en fait, parce que c'était des marionnettes historiques, qui racontent toujours des histoires basées sur les Orlando Furioso ou bien les Gerusalemme Belli Barato. Et donc j'ai voulu mettre ces deux œuvres ensemble, justement, pour pouvoir faire une production avec ces joueurs des marionnettes qui sont... une théâtralité extrême où je trouve l'opéra baroque quand je vois ça, franchement, parce que les récitatifs et leur manière de parler, non, qui est, c'est une théâtralité vraiment géniale. Donc voilà, on va faire ça cet été.
Et quel est votre regard sur vous qui êtes si éprise de théâtre et qui avez fait du théâtre depuis La Fosse avec d'autres ensembles, sur la manière dont on met en scène l'opéra baroque aujourd'hui?
Ah. Ça serait sujet d'un autre petit entretien avec vous, parce que...
En quelques mots.
En quelques mots. Alors, disons en quelques mots que je rêve depuis très longtemps, et je crois de réussir un jour, de faire ça à ma manière. Comme on a un peu réussi à peut-être donner une autre direction au disque de la musique ancienne, peut-être j'arriverai un jour aussi à donner une autre direction à l'opéra baroque. Ça, c'est mon rêve, disons. Après, il ne faut pas parler de choses qu'on n'a pas fait, parce que c'est toujours plus facile de parler que de faire. Mais peut-être, je rêve de ça.
Eh bien, nous allons nous quitter sur ce rêve. Christina Pluart, je vous remercie beaucoup. Je remercie également Francis Malek qui captait cet entretien. Je rappelle bien sûr chez Virgin Classics votre disque, Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi, ainsi que des concerts. Alors le 27 avril à Rueil, au théâtre André Malraux, c'est le programme Teatro d'Amore avec Philippe Jarouski, Nouria Rial aussi.
Philippe
seul. Oui. Bon. Philippe Jarouski seul, donc. Enfin, avec les musiciens d'Arpeggiata, oui, quand même. Et le 3 juillet, on vous retrouve au Festival de Saint-Denis dans un programme Rossi, La Lira d'Orfeo, avec Raquel Andusa et Luciana Mancini, qui participent au disque des Vêpres. On se quitte avec mon passage préféré des Vêpres. Pardon d'être si personnel, mais c'est le duo Séraphim, qui n'est pas vraiment un duo, c'est un trio, c'est la Sainte Trinité, incarnée ici par Emiliano González Toro, Marcus Brucher et Jan van Elsacker, avec les instrumentistes de l'Arpeggiata dirigés par Christina Pluart et cet indice Virgin Classics. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. So